L'abécédaire de Murray Bookchin. On sait les méfaits du mode de production capitaliste et du productivisme sur les écosystèmes. Océans acidifiés, biodiversité des sols dévastée, sixième extinction de masse, montée des eaux. On sait les déroutes du siècle dernier en matière de résistance audi-capitaliste, audi-capitalisme, pardon, audi-capitalisme, débâcle mondiale du communisme d'État, échec des soulèvements anarchistes, mise au pas du réformisme social. Et ça, en vrai, ça a fait quand même beaucoup de mal. Hein. Ça, malheureusement, ça a vraiment fait du mal. Hein. Ah tiens, quand ses parents juifs russes, comme la majeure partie du voisinage, ils avaient appartenu à un mouvement anarcho-syndicaliste avant de gagner les États-Unis. Ok, merci, je sais pas, Thierry. Ok, donc il est bien issu d'une famille juive. Ok. Et du coup, je trouve que c'est intéressant d'avoir un penseur juif sur les questions-là par rapport à bah, de vu qu'il a notamment eu un des connexions avec le. Alors, je sais que Rojava, c'est majoritairement, je crois, musulman, mais peu importe. D'avoir justement cette question antiraciste, décoloniale, c'est intéressant. Et moi, je pense que j'étais pas assez politisé et cultivé à l'époque pour comprendre tout ça. Du coup, j'ai vraiment hâte de relire Bookchin. Inutile de critiquer plus encore l'état des lieux. Parlons plutôt des quelques portes de sortie à notre disposition. L'Américain Murray Bookchin, disparu en 2006, est l'une des figures fondatrices de l'écologie sociale. Il est également le théoricien du municipalisme libertaire ou communalisme, une proposition à vocation révolutionnaire, populaire et écologiste. Ça, il faudrait vraiment que je m'y penche plus sur cette question-là. Elle aspire ainsi à dépasser le marxisme et l'anarchisme, que Bookchin a embrassé au fil de sa vie, tout en reconfigurant institutionnellement l'ensemble de la société, de bas en haut, autour de la commune et de la démocratie directe. Une ébauche de l'auteur en 26 lettres. Let's go! En vrai, je dis ça, mais c'est déjà une base de ma pensée, le municipalisme libertaire. Mais il faudrait que je me repenche un peu plus dessus pour voir les détails, quoi. Ah, on commence avec un mot que j'adore, aliénation. Alors lui aussi, il a une propre définition de l'aliénation, du coup. Parce que moi, j'avais l'aliénation de Ellul, l'aliénation de Gorz, et voilà, on va encore avoir un nouveau. Aliénation. La vie urbaine dans la métropole moderne connaît une situation d'anonymat, d'atomisation sociale et d'isolement spirituel qui est pratiquement sans précédent dans l'histoire humaine. Aujourd'hui, l'aliénation humaine est presque absolue. Dans l'espace urbain, les pratiques de coopération, d'entraide, de simple hospitalité et de décence ne sont réduites de manière alarmante. Et oui, bon ça, de toute façon, ça c'est un avis que je partage profondément. Moi, il n'a pas autorisé le communalisme en tant que tel, c'est existé déjà chez Kropotkine, mais je chipote. Ouais, bien sûr. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est lui qui l'a mis en avant, quoi. Mais c'est en vrai, et là, en vrai, du coup, Thierry, ce qui est intéressant, c'est que là, on rebondit sur cette fameuse propriété intellectuelle et attribution des trucs. Mais c'est que quand quelqu'un bah, réussit à transformer l'essai, t'as tendance à le mettre en avant, alors que bah, l'idée et la matière est faite de multitudes de connexions et de flux qui viennent, et du coup, tu ne peux pas être. Enfin, en fait, une idée ne vient jamais que de toi. Et c'est pour ça que je trouve que la limite de la propriété intellectuelle, elle est idiote dans le sens où une idée, en fait, ne vient jamais que de toi. Elle vient justement d'une multitude de connexions. Et là, Alors, je vais pas le dire, hein, mais voilà, il y a un mot qui me vient en tête très très fort. Hein. Après, on va quand même dire, ouais, t'es un bandeur. Mais voilà, de manière rhizomatique. Et bref, c'est voilà, c'est des multitudes de connexions et de choses qui font bah, que ça crée des espèces de nœuds centraux, et ces nœuds centraux sont les idées qui germent. Et voilà, ça vient d'un passé lointain, quoi. Mais je vois pas de quoi tu parles, mais putain, mais ça y est, je commence à être. Ça y est, je commence à être terminal idelusien. Mais oui, j'ai lu le passage de Rhizome. Heureusement qu'il n'a pas de propriétaire intellectuel pour les concepts. Bah oui, de ouf, Raven, heureusement. Et malheureusement, les gens, des fois, ont un peu tendance à fermer les idées dans quelque chose de figé. Alors que non, une idée, c'est quelque chose qui est profondément vivante, en fait. Mais bon, c'est quand même dommage. Le terme, donc B comme bête. Notre viol de la nature a des racines psychiques très profondes. Et il dérive ultimement d'une haine vindicative à l'égard des exigences personnelles de vivre avec d'autres êtres humains. Ça, c'est un peu la tech de Malcolm Ferrand. De par ses origines hiérarchiques et patriarcales, la tradition occidentale manque d'empathie et pour les êtres non humains et pour les individus humains. Il est quand même vraiment basé, Bookchin. La marque de l'histoire est un amoncellement de débris ou de plâtras des villes, mélangé à des machines démolies, à des corps fragmentés, épandus pêle-mêle dans une étendue de ruines, constitue le vrai temple de la civilisation. C'est bien écrit, hein. Le moins que l'on puisse dire est que les animaux, dans ces horribles décombres, ne reçoivent guère d'attention. Nous les regardons fondamentalement comme les échecs de l'évolution, dont nous sommes assurément l'apogée. Comme des déchets du progrès, comme des biens qui n'existent que pour être utilisés, souvent avec une cruauté monstrueuse à nos fins plus triviales. Wesh, comment il écrit trop bien. Genre les affects que ça déplace, la lecture qu'on vient de lire là. Les concepts sont signés comme disent Deleuze et Guattari, mais ne sont pas les choses que le pas la même chose que la propriété intellectuelle. Ah ouais, signé. Ah, j'aime bien le terme de signé. C'est pas mal. En mode, bah, y a une signature qui fait que il y a quelqu'un qui a un peu plus ou moins mis en avant le concept, mais il n'appartient à personne, quoi. Oui, pour Bookchin, la domination de la nature découle de la domination de l'homme par l'homme et de la femme par l'homme aussi. Ouais, d'ouf. Mais Bookchin très en avance sur ces questions-là, d'ouf. C'est pour ça aussi que la question du Rojava avec... en Rojava, il y a beaucoup de questions liées au combat féminisme. Alors, je vais pas dire que c'est lié que à Bookchin, mais vu que Abdallah Chalan s'est notamment inspiré de Bookchin, on peut voir qu'il y a une connexion qui s'installe et donc, du coup, aussi un énorme combat d'émancipation des femmes au Rojava. Et du reste, on avait lu des articles là-dessus, je crois plus qu'ils viennent du site Ballast, sur justement le travail féminin au Rojava. Donc, n'hésitez pas à aller checker. C'est comme croissance. Nous avons tellement pris pour acquis cette notion de croissance dans ces dernières générations que c'est comme si elle était inimmablement fixée dans notre conscience, tout comme le caractère sacré de la propriété elle-même. Ah, let's go ! Oui ! C'est ce qu'on vient de parler un instant. De fait, la croissance est presque devenue synonyme de l'économie de marché qui prévaut aujourd'hui. Ce fait trouve son expression la plus claire dans la maxime du marché « croître ou mourir ». Nous vivons dans un monde compétitif dans lequel la rivalité est une loi de l'économie. Le profit, un désir social et personnel. Toute limite ou restriction, un archaïsme. Et les biens de consommation, un substitut aux moyens traditionnels utilisés pour établir une relation économique, à savoir le don. Ah, j'aime bien cette tech-là. Je la trouve intéressante. D comme délégué. Un peuple dont la seule fonction politique est d'élire des délégués n'est pas en fait un peuple du tout. C'est une masse, une agglomération de monades. Oh, j'aime bien cette tech. La politique, contrairement au social et à l'étatique, entraîne la recorporalisation des masses en assemblées richement articulées pour former un corps politique dans un lieu de discours, de rationalité partagée, de libre expression et de mode de prise de décision radicalement démocratique. Voilà, donc ça, c'est clairement la base du municipalisme libertaire. Et ben voilà, pour un municipalisme libertaire. Donc ça, c'est vraiment une des bases. Et en vrai de vrai, on l'a vu, entre guillemets, appliqué dans la vidéo la dernière fois sur Marina Delida. Marina Delida, c'est une forme de municipalisme libertaire qui était plus ou moins appliquée, en vrai de vrai. E comme État. Let's go! Quand je dis nous devons démocratiser la République, je veux dire que nous devons préserver ces éléments démocratiques qu'a gagné le peuple autrefois. En même temps, il nous faut aller plus loin et essayer de les radicaliser en les élargissant en opposition à l'État et à ces éléments de l'État qui ont envahi la vie. Oui, et s'émanciper de l'État, c'est très important. Mais à côté de ces très puissants éléments étatiques dans la vie civique, il y a aussi des éléments démocratiques ou des vestiges d'éléments démocratiques et ceux-ci doivent être élargis et radicalisés. Cette radicalisation, selon moi, est le seul moyen dont dispose le mouvement municipaliste libertaire pour développer un pouvoir parallèle dirigé contre l'État. Oh, je suis tellement d'accord avec cette tech. Vraiment, je suis vraiment d'accord avec cette tech-là. Ces deux processus font partie ensemble du phénomène plus large qui consiste à essayer de confronter l'État avec un pouvoir populaire suffisamment étendu pour être capable finalement de renverser l'État et de les remplacer par une société communiste libertaire. Et en vrai, et ça les gens, je suis vraiment d'accord avec cette tech-là. Et c'est pour ça que moi je suis pour la prise de pouvoir des villages, la prise de pouvoir de tous. En fait, il faut passer comme ça. Et l'idée, c'est pas de renverser le pouvoir en mode « Ah, la révolution !» Non, l'idée, c'est de comment tu peux pervertir le système à l'heure actuelle dans le plus profond de sa chair, tu vois. Et c'est ce qu'a fait... les libéraux, ils ont réussi à le faire. Pourquoi nous, on peut pas le faire? Genre, les libéraux, en installant une privatisation de tous les trucs publics, ils ont perverti le système. Ben, nous, on peut faire la même. Tu peux, avec un pouvoir plus ou moins déployé, tu peux aussi le pervertir. Enfin, pas le pervertir, mais le récupérer, quoi. Et à mon avis, c'est faisable. Après, c'est un long processus, hein. Cette réflexion sur la croissance me rappelle le débat politique actuel sur les indicateurs économiques secondaires. Notre gouvernement ne publie pas autre chose que le PIB, alors que depuis 10 ou 15 ans, les démographes et économistes essaient de s'intéresser à d'autres indices. Ouais, de ouf. Mais même, on a vu, hein, là, la limite du PIB, hein, c'est connu que même si la croissance augmente, le bonheur n'augmente plus, quoi. Enfin, il y a un stade où ça devient linéaire. Oui, Ocalan a publié des ouvrages d'anthropologie sur l'avènement des sociétés patriarcales. D'ailleurs, comme la domination de la nature découle de la domination de l'homme pour Bookchin, chez Ocalan, c'est la même logique. Toute domination prend sa source dans l'asservissement de la femme, la première nation, genre classe au primaire. Ouais, voilà, bah, ça m'étonne pas. Partant, il va de soi que la libération des femmes est plus importante que celle de la terre natale. Elle est la clé de la libération tout court. Ouais, bah, je suis clairement d'accord avec ça. En mettant fin à la soumission de la femme par l'homme, l'on met de même fin à toutes les logiques de l'homme du mâle dominant. Capitalisme, impérialisme, colonialisme, bellicisme, virilisme, écocide, etc. Ah, et du coup, faut vraiment que je lise, hein, Ocalan. Hein. Faut vraiment que je lise Ocalan. Hein. Putain. Bon, voilà, j'ai encore 15 livres à lire, là. Comme d'hab. Ah bah tiens, F comme femme. Bien avant l'apparition de la société bourgeoise, le rationalisme grec avait légitimé le statut des femmes qui faisaient d'elles pratiquement des biens meubles, et la morale hébraïque avait placé entre les mains d'Abraham le pouvoir de tuer Isaac. Cette réduction de l'humain à l'objet, que ce soit comme esclave, comme femme ou comme enfant, trouve son exact parallèle dans le pouvoir de Noé de nommer les animaux et de les dominer, d'asservir à l'homme le monde vivant. Oh, j'aime bien cette tech, elle est intéressante. Ainsi, né des deux sources essentielles de la civilisation occidentale, l'hellénisme et le judaïsme, les pouvoirs prométhéens du mal se sont rassemblés en une idéologie de la rationalité répressive et de la morale hiérarchique. La femme est devenue incarnation de la fonction biologique, l'image de la nature, écrivent Horkheimer et Adorno, et l'assujettissement de celle-ci a constitué le titre de gloire de cette civilisation. Et vous voyez, c'est pour ça que quand tu vois des Dora Muto ultra transphobes qui disent des dingueries en mode féministe, une femme c'est quelqu'un qui peut enfanter, qui a ses règles, etc. En fait, ce qui est fou, c'est que ces gens-là, ces femmes-là, ce qui est dramatique, c'est qu'en fait, elles perpétuent la logique même patriarcale d'enfermer la femme dans les stéréotypes féminins de produire des enfants. Tu vois, c'est genre horrible. Alors que non, justement, bah, une femme, c'est le devenir femme, c'est le ressenti femme, c'est voilà, c'est. Et du coup, c'est pas lié à tes organes génitaux, quoi. Ça a vraiment aucun rapport. Et je trouve ça ouf de pouvoir dire ce genre de choses et que ça passe comme une lettre à la poste dans les médias, tu vois. C'est une aberration. Et oui, en plus, elle prétend se réclamer de Beauvoir, qui est exactement l'inverse. Mais oui, immense con son corps. Genre, j'ai lu pour le coup les deux livres de Beauvoir sur. C'est quoi, c'est l'origine du sexe, je crois. Non, je sais plus c'est quoi. Non, c'est pas ça. Mais Beauvoir, elle a écrit deux bouquins vraiment fondamentaux sur la question. Et même Beauvoir, il y a X années, elle explique clairement ça, elle le dit clairement, qu'il faut pas tomber là-dedans, tu vois. C'est ouf, en fait, c'est vraiment ouf. Et ce qui est dingue, c'est que Muto et Stern prennent vraiment, je crois, genre deux phrases de 800... les deux bouquins, ils font genre bien... merci, c'est le deuxième sexe, ouais, le deuxième sexe. Les deux bouquins font peut-être bien 1500 pages, un truc comme ça, tu vois. Et les meufs, elles prennent deux phrases de ce bouquin-là et pour déformer tout le contenu du livre. C'est vraiment afférent. Il a écrit tout ça en prison, pas seulement quelques livres à sa disposition, MDR. Par ailleurs, Graeber, dans la préface de Manifesto for Democratic Civilization, il envoie une balle à Fukuyama en disant que Ocalan ne fait mieux que lui alors qu'il avait accès à toute la littérature scientifique possible et imaginable. Attends, Fukuyama, c'est lequel du coup? C'est le Jean-Michel Brandpaille, là? Ah, le bâtard. Non, ah non, c'est pas lui, c'est Fukuyuki. Attends, non, c'est pas lui. C'est qui, Fukuyama? Dora machin, j'ai vu. Ah oui, ok, oui, non, c'est pas le même. Ok, oui. C'est pas. Je pensais que c'était Jean-Michel, la révolution dans la Brandpaille. Dora machin, j'ai vu son passage dans une émission sur YouTube. Elle est complètement à côté de la plaque. C'est une force réactionnaire au finisme actuel. Oui, bien sûr. Et le problème, c'est que c'est en train de prendre du. Elle est en train de. Enfin, elle est mise en avant dans les médias. Elle est mise en avant par le gouvernement. Et elle a des propos ultra réactionnaires, très. Très pro-patriarcat et compagnie, quoi. Donc, ouais, non, c'est un enfer. J'ai comme garde civile. Un véritable civisme tentant de créer une authentique politique, une citoyenneté autonomisée et une économie municipalisée serait un projet vulnérable s'il ne parvenait pas à remplacer la police et l'armée de métier par une milice populaire, plus exactement une garde civile composée de patrouilles tournantes, à des fins de police et des contingents militaires bien entraînés pour répondre aux menaces extérieures. La démocratie grecque n'aurait jamais survécu aux assauts répétés de l'aristocratie grecque sans sa milice de citoyens hoplites, ces fantassins capables de répondre à l'appel aux armes avec leurs propres armes et leurs commandants élus. Oh, c'est intéressant cette question de la violence armée. Qui c'est le Pelario ? YPG, YPJ. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux Thierry Dodo. H comme hiérarchie. Il y aura les leaders partout, comme chaque fois qu'une lutte sera engagée. L'existence de leaders conduit-elle nécessairement à l'existence d'une hiérarchie ? Absolument pas. Le mot leader ne devrait pas nous faire peur au point de ne pas reconnaître que certains individus ont plus d'expérience de maturité, de force de caractère, etc. que d'autres. Ça, je suis vraiment d'accord avec cette tech-là. Pour moi, je pense qu'il y a des gens qui ont cette puissance de pouvoir prendre en main des choses. Par contre, attention à ne pas leur donner tout le pouvoir, quoi. J'ai énormément de difficultés avec les anarchistes qui rejettent complètement toute direction. Il est tragique que les mots avant-garde et leader aient été discrédités par la nouvelle gauche pendant les années 1960, à cause des expériences du stalinisme et du léninisme. Ouais, je suis d'accord avec cette tech-là à retravailler, mais j'aime bien. Dans bien des révolutions, ils ont été infiniment importants. Des leaders et des organisations décidées ont porté en avant des révolutions et, en l'absence de telles personnes décidées, les révolutions ont échoué. Et peut-être, par exemple, que les Gilets jaunes, une des forces a été le fait qu'il n'y ait pas de leader et une des faiblesses, le fait qu'il n'y ait pas de leader. C'est ça qui est intéressant, en vrai de vrai. Distinguer meneur et chef. Ouais, je vois le truc. Ensuite, Francis Fukuyama, la théorie du choc des civilisations, je l'ai rarement entendu citer pour dire autre chose qu'il raconte quand même des grosses conneries simplistes. Ouais, je connaissais pas, moi je pensais à une autre personne pour le coup. I comme intellect. Le passage à une autre société ne se fera pas par une explosion soudaine sans une longue période de préparation intellectuelle et morale. Ah bah ça, l'hégémonie culturelle de Gramsci. Hein. Il faut éduquer le monde aussi complètement que possible si l'on veut que les gens changent d'eux-mêmes leur vie et ne se contentent pas de voir la transformer pour eux par des élites cooptées qui finiront par devenir des oligarchies poursuivant leur propre intérêt. Oh là là. Je vais tout souligner, mais je suis d'accord avec tout. Les mouvements radicaux ne peuvent plus se permettre de se lancer inconsidérablement dans l'action pour l'action. Ce qu'il dit sur la mémoire grecque des optilites, c'est basé, ça a vraiment été un creuset de la démocratie. Ok, je ne connaissais pas. Les pratiques de délibération, de partage butin, de coordination collective commencent dans les armées démocratiques des hoplites. Ok, putain, je ne savais pas, incroyable. Oh, mais du coup, je vais lire son truc là sur le truc libertaire. Le municipalisme libertaire. J comme je. D'une part, une tendance anti-éclairée se répand au sein des mouvements écologiques, comme une plaie spirituelle aux États-Unis et en Europe, voulant revenir à l'irrationalité, au mysticisme, à une religion païenne au nom du retour à la nature. Ah, intéressant ça. Des cultes de la déesse, des traditions paléolithiques ou la rigueur néolithique, des rituels écologiques qui ne sont au mieux qu'un vaudou comparable au vaudouisme économique de l'ère Reagan prennent racine sur les deux continents au nom de la nouvelle spiritualité. Oh, tech intéressante, hein. Les problèmes écologiques sont entièrement dissociés de leur contexte social et réduits à un jeu mythique de forces naturelles fréquemment accompagné de relents racistes et fascistes. Ah là, et les gens turbo-basés, hein, oui. Le mec, il a vu le relent écofascisme avec le manque de spiritualité. Il a anticipé les délires New Age et féminin sacré. De ouf, de ouf. C'est en 92. Après, en vrai, 92, ça existait plus ou moins déjà. On a vu... la dernière fois, on avait maté un documentaire atroce là sur la meuf qui avait milité. Et je crois que c'est dans les années 80 quelque chose. Donc, il me semble que... Mais ouais. Ah, K comme kurde. Je suis heureux que Öcalan, cofondateur emprisonné du PKK, trouve matière dans mes idées sur le municipalisme libertaire à aider à penser un futur corps politique kurde. Je ne suis pas en mesure de poursuivre un dialogue théorique approfondi avec Monsieur Öcalan autant que je le voudrais. Donc je crois par rapport à la prison, il me semble, et peut-être les états de santé aussi. Mon espoir est que le peuple kurde puisse un jour établir une société libre et rationnelle qui permettra à son éclat de s'épanouir à nouveau. Ils ont en effet la chance d'avoir un chef de file du talent de Monsieur Ocalan pour les guider. Courrier électronique de 2004, traduit par Ballast. Oh, let's go, incroyable. Et oui, un gros cœur à nos amis kurdes hein, qui subissent malheureusement des attaques terroristes violentes. Hein, donc deux, je crois, récemment. Deux ou trois au début janvier. Donc gros cœur sur eux. Et bien sûr, allez voir Azadi. Vraiment, allez. Et pas que lui, mais il y aura tous les liens grâce à lui. Allez follow Azadi qui parle de ces questions-là. Voilà. Militant kurde et décolonial. Donc voilà. Vraiment très très bon. Elle comme latence. Le développement de la citoyenneté doit devenir un art et pas simplement une forme d'éducation. Et un art créateur au sens esthétique qui fasse appel au désir profondément humain d'expression de soi au sein d'une communauté politique en pleine de sens. En vrai, on est d'accord que là il est en train de dire bah, finalement les happenings c'est pas si mal hein. Ce doit être un art personnel grâce auquel chaque citoyen est pleinement conscient du fait que sa communauté confie sa destinée à sa probité morale et à sa rationalité. Si l'autorité idéologique de l'étatisme repose sur la conviction que le citoyen est un être incompétent, quelquefois infantile et généralement peu digne de confiance, la conception municipale de la citoyenneté repose sur la conviction exactement contraire. Et ça, moi, je suis clairement d'accord avec ça. Je trouve que c'est méprisant de croire que les gens sont bêtes. Attention, en fait, les gens sont pas bêtes parce que par nature. Les gens sont idiots et bêtes parce qu'on est nourri par une logique éducative néolibérale qui fait qu'elle nous rend bêtes, en fait. Et du coup, on est tous plus ou moins bêtes, on est tous plus ou moins l'idiot du village parce qu'on est pris là-dedans. Et en vrai, il y a ce processus d'apprentissage qui est très long et c'est pour ça que le devoir militant, c'est aussi de permettre de fournir des contenus scientifiques ou du savoir en tout cas aux gens pour qu'il y ait justement cette éducation qui se mette en place. Chaque citoyen devrait être considéré comme compétent pour participer directement aux affaires de l'État et surtout, ce qui est le plus important, il devrait être encouragé à le faire. Il faudrait fournir tous les moyens destinés à favoriser une participation complète, comprise comme un processus pédagogique et éthique qui transforme la capacité latente des citoyens en une réalité effective. Et en vrai, si on pense à Marina Leda, les gens n'étaient pas idiots, quoi. Ils agissaient et tout le monde agissait et ça se passait plutôt bien. J'ai du mal avec le concept de citoyenneté personnellement, principalement en France, ça part vite dans les bails de gauche républicaine et jacobine cringe. Ouais, après, bon, encore une fois, je pense qu'il faut garder en tête, en fait, je suis d'accord avec toi Thierry, mais attention à pas faire non plus le gauchiste et compagnie. En fait, il y a des structures qui existent et tant que les structures existent, l'idée c'est d'articuler avec ce qu'on nous propose et à terme le détruire, tu vois. Mais vu que la structure elle est déjà présente, si tu veux faire une hégémonie culturelle et tu veux faire une hégémonie et que tu veux toucher le plus de gens, il faut que tu prennes des choses qui sont réelles et qui touchent déjà les gens, tu vois. Et encore, on finit tous par être experts en quelque chose, même les... Oui, bien sûr, Erosim, mais ça c'est vrai, on devient tous experts en un sujet, évidemment. M comme marxisme. La classe ouvrière actuelle s'est complètement industrialisée au lieu de s'être radicalisée comme l'espéraient pieusement les socialistes et les arnaco-syndicalistes. Nous ne pouvons qu'assister à non seulement à l'échec de la classe ouvrière comme agent historique du changement révolutionnaire, mais aussi à sa transformation en un produit fabriqué par le capitalisme dans le cours de sa propre évolution. Ceci nous amène à parler des terribles lacunes du modèle de changement social introduit par Marx dans le projet révolutionnaire qui a marqué les 100 dernières années. Projet qui fut également accepté implicitement par les radicaux non marxistes. Le drapeau rouge du marxisme enveloppe maintenant le cercueil des mythes qui célébraient la centralisation économique et politique, la rationalisation de l'industrie, la théorie simpliste d'un progrès linéaire et des positions foncièrement anti-écologiques. Ah ouais, putain, il est... Ouais, il est pas gentil avec le marxisme. Hein. Alors je suppose qu'il fait une grosse critique à notamment le marxisme russe, à mon avis. Je pense, si on peut dire que c'est du marxisme, à mon avis. Mais ouais, les deux derniers points seraient très fortement nuancés, je suis d'accord. Je le trouve un peu sévère, en vrai de vrai. Je le trouve vraiment sévère et je pense que en vrai, après, il faudrait voir s'il fait allusion à... Genre, je sais pas si ça se dit marxisme russe, mais s'il fait allusion à ce qui s'est passé en Russie, je peux le comprendre. Après, dans le reste du monde, je trouve qu'il force un peu. Ça taille les cocos et le socialisme réel fort, comme Ocalan l'a fait aussi. Ouais, après voilà, après ça reste un radical, quoi. Oui, pour la Russie, ouais, je pense que c'est pour ça. N comme nucléaire. Si les tests d'armes nucléaires étaient arrêtés définitivement, nous serions toujours confrontés au danger de la longue durée créé par l'usage pacifique de l'énergie nucléaire. À la différence des faibles quantités d'énergie auxquelles l'homme avait affaire avant 1940, l'industrie de l'énergie nucléaire engendre des millions de curies de déchets chaque année. Avant de créer de nouveaux centres de radioactivité et de les ajouter aux problèmes existants de traitement des déchets, nous ferions bien de nous demander si tous les dangers liés à l'exposition de ces faibles doses de radiation ont été étudiés et si nous avons fait le tour de toutes les alternatives à l'énergie nucléaire. Ouais, en vrai, salut à toi Celtic. En vrai, ce qui est intéressant, c'est de voir que moi, je trouve que la logique intéressante de nucléaire, c'est surtout de voir qu'il y a un problème lié à la question que ça. En fait, le nucléaire a permis encore plus de production et encore plus de lancer la machine. Au-delà même du problème de santé, parce que à l'heure actuelle, les gens, ils s'en foutent. Enfin, ils s'en foutent. En fait, on est tellement pris dans cette logique de production qu'il faut déjà réussir à déconstruire ça, quoi. Je pense que c'est surtout une critique de l'étatisme et de la bureaucratie, de toutes les dérives des projets marxistes qui ont vrillé. URSS, Chine, etc. Ouais, je suis d'accord, Thierry, et du coup, là, on peut comprendre la critique. C'est pour ça qu'il faudrait lire le texte précis. Hein. Voilà, c'est une société à refaire, il faudrait lire le texte. À mon avis, il est plus nuancé dans le texte, je pense. O comme oxyde de carbone. Depuis la révolution industrielle, la masse totale d'oxyde de carbone contenue dans l'atmosphère s'est accrue de 25%. On a de très, très solides raisons théoriques de soutenir que cette couverture de plus en plus épaisse d'oxyde de carbone, en empêchant la dispersion du rayonnement thermique de la Terre, va donner naissance à des types de perturbations atmosphériques de plus en plus dangereuses et risque, à terme, de provoquer la fusion des calottes glaciaires et des pôles à la submersion de vastes étendues de Terre. Ok, donc en gros, quand il parle d'oxyde carbone, il pense à CO2. Si éloigné dans le temps que puisse paraître ce déluge, la modification de la proportion d'oxyde de carbone par rapport aux autres gaz de l'atmosphère est un signe alarmant de l'impact que l'homme peut avoir sur les équilibres naturels. Le fait capital, c'est que l'homme est en train de se défaire l'œuvre de l'évolution du vivant. Et les gens, il a écrit ça pour une société écologique. Ah non, attendez, Christian Bourgeois 76 en langue anglaise 64. Alors, je sais pas trop pourquoi c'est Bookchin, mais en gros, c'est vieux quand même. Enfin, ça date entre 76 et 64. Alors, je sais pas trop qui l'a écrit. C'est lui qui l'a écrit en 64 et après traduit par Christian Bourgeois. Ah, ok, donc l'original de Bookchin en 64, les gens. Eh, radical, hein. Original en 64, hein. Christian Bourgeois, c'est l'éditeur. Ah, merci, merci, ok. Greta Thunberg qui se fait arrêter, MDR, la mise en scène m'a fait rire. Ouais, de ouf, Celtic, la pauvre. Hein. Après, courage à elle, hein, militante de ouf. Hein. P comme propriété. Let's go. Nous en arrivons ainsi, soudainement, à l'idée d'une économie municipale qui se pose de dissoudre de manière novatrice l'aura mystique qui entoure la propriété des firmes, la propriété nationalisée. Je me réfère à la municipalisation de la propriété comme opposée à sa privatisation ou à sa nationalisation. Let's go. Et ça, je suis vraiment d'accord avec ça. Le municipalisme libertaire propose de redéfinir la politique pour y inclure une démocratie communale directe qui s'étendra graduellement sous des formes de confédérales en prévoyant également une approche différente de l'économie. Le municipalisme libertaire propose que la terre et les entreprises soient mises en façon croissante à la disposition de la communauté ou, plus précisément, à la disposition des citoyens dans leur libre assemblée et de leurs députés dans les conseils confédéraux. Bon, ça, je suis radicalement d'accord. Q comme question. Les anarchistes conçoivent le pouvoir comme un mal essentiellement maléfique qui doit être détruit. Proudhon, par exemple, a déclaré qu'il diviserait et sous-diviserait le pouvoir jusqu'à ce qu'il ne cesse d'exister. Ok, je ne savais pas ça. Enfin, pour Proudhon, en tout cas. Je pense quand même que la question des échelles ne peut pas se résoudre simplement en privilégiant une échelle à une autre. Non, ça, je suis clairement d'accord avec toi, Rhizomatique. C'est pour ça que moi, je suis pour la reprise des villages et des territoires par des gauchistes et la reprise du pouvoir par des gauchistes. Et en gros, l'idée, c'est que à l'heure actuelle où l'État-nation existe, tu es obligé de jouer avec les règles de l'État-nation pour le démanteler. C'est la triste réalité. Et c'est pour ça qu'il faut être. En fait, il faut réussir à être gauchiste à certains moments de la lutte à petite échelle, entre guillemets, enfin gauchiste et encore, une forme de plus radical, enfin de truc radical à petite échelle, et plus tu montes en échelle et moins tu te radicalises, jusqu'à temps que tu prennes le pouvoir. Et une fois que tu prennes, une fois que t'as le pouvoir, là tu peux commencer à réappliquer une grille de radicalité. Et je vois un peu une forme comme ça, tu vois, de truc organique qui s'installe, où en fait tu dois réussir à construire un discours de différentes radicalités. Et oui, et en fait là ce qui est intéressant, si tu dis oui c'est toute la difficulté, en vrai ce qui est intéressant c'est que beaucoup de gens ont cette tech-là en tête, mais c'est dur de la mettre en pratique parce que beaucoup de gens ne vont pas forcément comprendre ou accepter ça. Et c'est vrai que si on arrivait tous plus ou moins à accepter ce genre de choses, et ben on pourrait vraiment construire un vrai truc organique ultra intéressant, quoi. T'en penses quoi de Bad Mulch? Il est vraiment apolitique? Non, Celtic, c'est un troll. Non, bah, bien sûr que non. Bad Mulch, il est de gauche. Après, voilà, il essaye de se faire passer pour apolitique, mais... Alors, en tout cas, moi, je le trouve de gauche. Après, peut-être je peux me tromper. Hein. Peut-être qu'il est apolitique. Mais non, il est... À mes yeux, en tout cas, c'est un bon gauchiste. Même des fois, bien trop gauchiste. Mais bon, il est intéressant. Là. N'hésite pas à aller checker si ça t'intéresse. Du coup... Proudhon a peut-être voulu que le gouvernement soit réduit à l'entité minimale pouvant exercer son autorité sur l'individu, mais sa déclaration perpétue l'illusion que le pouvoir peut réellement cesser d'exister. Une notion aussi absurde que l'idée que la gravité puisse être abolie. Et ça, je suis vraiment d'accord avec lui, et c'est ce qu'on disait la dernière fois quand on parlait des rapports conflictuels, c'est que la conflictualité vient avec des rapports de force, quoi, enfin du rapport de pouvoir. Le pouvoir qui n'est pas entre les mains des masses doit inévitablement tomber entre celles de leur oppresseur. Entends quoi ? Doit inévitablement tomber, ok. Il n'existe pas de placard dans lequel il puisse se cacher, pas de rituel envoûtant qui puisse le faire s'évaporer, pas de royaume surhumain vers lequel il puisse être envoyé, et aucune idéologie simpliste qui puisse le faire disparaître avec quelques incantations morales et mystiques. Ah oui, en mode, en fait, il faut penser le pouvoir. Parce que si on ne pense pas le pouvoir, on va se le faire juste voler et on aura perdu le combat, quoi. Au risque de me répéter, permettez-moi de souligner que la question vraiment pertinente à laquelle l'anarchisme est confronté n'est pas de savoir si le pouvoir existera, mais s'il reposera entre les mains d'une élite ou entre les mains du peuple, et s'il recevra une forme qui correspond aux idéaux libertaires les plus avancés, où il sera mis au service de la réaction. Voilà. Ça, je suis d'accord. Les révolutionnaires sociaux, loin d'écarter le problème de pouvoir de leur champ de vision, doivent se demander comment lui donner une forme institutionnelle concrète d'émancipation. Voilà. Clairement d'accord avec ça. La vérité, c'est que dans les faits, au Kurdistan, ils arrivent à plutôt bien gérer les échelles, genre le HDP et des députés dans l'assemblée turque, ils ont des maires à Bakur, Kurdistan Nord, et en même temps, il y a un max de communes libres de Rojava, ils arrivent à être matérialistes malgré tout. Ouais, mais ça m'étonne pas en vrai. Hein. Ça m'étonne pas. Hein. Et c'est pour ça, voilà, c'est comme dit Rizmatic, ils ont beaucoup avancé sur la question. C'est pour ça que je pense qu'il faut. S'il y a des gens qui sont déterrés à vouloir récupérer le pouvoir dans des villages et compagnie, bah, intéressez-vous au Rojava. Genre, vraiment, intéressez-vous au Rojava, comprenez comment ça fonctionne, et essayez de mettre ça en place, ou même Marina Leda, si vous voulez pas non plus être trop bandeur. Bah, voilà, là, on a deux, enfin, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a Marina Leda, il y a le Rojava kurde, et je pense que tu peux trouver d'autres formes de trucs. Il y a aussi le Chiapas, les Apatis, voilà, il y a plein de sociétés. Bah, l'idée, c'est de s'intéresser à ça, comment tu mets ça en place au sein de la France, tu vois. R comme résultat. Un de mes problèmes, c'est que les gens veulent des résultats immédiats ou rapides. C'est une des principales tares de la génération d'après-guerre. La révolte des années 60, malgré toutes ses idées généreuses, s'est effondrée entre autres parce que les jeunes radicaux exigeaient une satisfaction immédiate et des succès sensationnels. Ça, en vrai, c'est pas faux. Hein. Ça, c'est un peu... Franchement, c'est pas faux. Si les gens croient aujourd'hui que la politique est comme une machine distributrice dans laquelle on déposerait sa pièce de 25 cents et qui expulse une tablette de chocolat, alors je leur recommande de retourner à la vie privée. En vrai, je suis d'accord avec lui. Hein. Je suis vraiment... Eh, il est basé, Bookchin. Hein. Putain, incroyable. Hein. S comme système. Chercher querelle à un tel système capitaliste au sujet de ses valeurs, tenter de l'effaroucher avec les conséquences de la croissance, revient à lui reprocher ce qui constitue son métabolisme même. Oh, c'est intéressant comme texte. Hein. J'aime bien. Enfin, je repaufine, mais je la trouve intéressante. Autant persuader une plante de renoncer à la photosynthèse que de demander à l'économie bourgeoise de renoncer à l'accumulation du capital. Ok. D'ailleurs, à qui s'adresser ? L'accumulation n'est pas déterminée par le bon ou le mauvais vouloir des bourgeois, pris individuellement, mais par la relation mercantile même que Marx a si judicieusement désignée comme la cellule de la base de l'économie bourgeoise. Ok. Ce qui est vrai, enfin pour le coup c'est logique. Ce n'est pas la perversité du bourgeois qui suscite la production ou pour la production, mais le complexe même du marché auquel il préside et auquel il succombe. Ok, donc il est quand même dans cette logique de dire que même les bourgeois sont pris en fait dans la logique de structure. Ça c'est intéressant en vrai de vrai. Pour aussi sortir le côté individualiste, enfin on individualise les bourgeois, c'est aussi en pensant en tête que bah, les bourgeois font eux-mêmes partie d'un système et en fait ils se font aussi aliéner par leur propre système, tu vois. Et je trouve la tech intéressante. Ça c'est vraiment l'approche structuraliste, c'est important à comprendre. Les dominants sont dominés par leur domination. Ouais voilà, bah ouais, ok. Bah, je suis vraiment d'accord avec ça. La critique est un peu boomer, mais à fond de vérité. Oui, par rapport à la... aux gens qui veulent tout de suite tout vite. Oui, je suis d'accord. Et en vrai, ça, je suis d'accord avec cette tech-là de dire que c'est du coup le fameux structuralisme. Et en vrai, je pense que c'est intéressant de comprendre que voilà, même les bourgeois sont aliénés par leur propre domination, quoi. Et ok, donc ça, c'est Bourdieu, d'accord. Intéressant. En appeler à ses préoccupations humaines contre ses préoccupations économiques, c'est s'aveugler sur ce fait élémentaire que son pouvoir même est fonction de son être matériel. T comme technologie. J'estime que cette éco-communauté effacerait la rupture entre la ville et la campagne et même, à la vérité, entre l'esprit et le corps, car elle opérerait la fusion du travail manuel et du travail intellectuel, de l'industrie et de l'agriculture, grâce à la rotation et à la diversification des tâches. L'éco-communauté prendrait appui sur une technologie d'un nouveau type, mettant en œuvre un outillage adaptable, susceptible d'utilisation variée et produisant des biens durables et de qualité. S'en serait fini de l'obsolescence incorporée, de la folie quantitative des productions de Camelot, de la circulation accélérée de la marchandise sans aucune utilité. Qu'il soit bien clair, je ne plaide pas pour l'abandon de la technologie et pour le retour à la cueillette paléolithique. Et ça, les gens, ça, c'est le genre de discours décroissant qu'il faut mettre en place. Vraiment, ça, c'est hyper important de construire des discours comme ça. Et les gens, putain, le mec, il a écrit ça en 64 quand même. Ça veut pas dire qu'ils n'ont aucun pouvoir de changer, plus tu es passé à des points stratégiques de la structure, plus tu es responsable. Oui, oui, non, en vrai, je suis d'accord, rhizomatique. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même une forme d'aliénation, quoi. Que la structure, mine de rien, même si elle est là pour te... Enfin, en vrai, pourquoi moi je trouve qu'il y a quand même une logique d'aliénation, c'est que les bourgeois, là où ils sont plus ou moins idiots, c'est que du coup se reproduire dans leur logique de bourgeoisie, en fait, ils détruisent leur propre terre et leur propre moyen de vie, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final... Ah, pardon, tu répondais... Pardon, excuse-moi. Et c'est, voilà, en vrai, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, au final, bah, ils vont carrément détruire leur propre moyen de vie avec la terre, la pollution, l'eau, etc. Et de ce fait-là, bah, ils se tirent une balle dans le pied. Donc c'est là où tu vois qu'il y a bien une aliénation qui est mise en place, quoi. Ah, c'est intéressant, en vrai. Tu mets ça en parallèle avec le taf de Biwix sur les low-tech et t'as tout gagné. Ouais, en vrai, putain... Et là, c'est grave, vraiment, Bookshin, grave enrichissant. J'aime beaucoup. Hein. Ça fait vraiment travailler le cerveau. Toi, t'as envie de tout charbonner, là, tellement c'est cool. Usine. Ce n'est pas unir et organiser le prolétariat en vue des changements qu'a servi l'usine, mais à le dresser au réflexe de la subordination, de l'obéissance et du labeur abrutissant. Ah, ça, c'est une tech de Foucault, ça. Comme tout ce qui est opprimé dans la société, le prolétariat ne prend vie que quand il ôte ses habits industriels pour s'adonner librement et spontanément à la communication, c'est-à-dire au processus vivant qui donne sens au mot « communauté ». Ah, et là, on peut penser aux perruques ouvrières, donc les petits objets que les ouvriers produisaient. V comme vert. Mais je ne vois aucun intérêt à former un parti comme les Verts qui présente Ralph Nader, candidat écologiste à la présidence américaine en 1996 et 2000, à la présidence. Malgré son radicalisme apparent, il veut opérer complètement à l'intérieur du système existant. Quant à moi, je propose de développer des solutions radicalement différentes du système actuel. Alors, je suis d'accord avec cette tech-là, mais c'est un peu trop radical. Mais en vrai, je suis d'accord avec cette tech-là. Je propose d'établir une culture politique séparée des modes d'organisation, des modes de transformation à la fois politique et économique, non seulement pour le Delaware, État de la côte Est des États-Unis, mais pour la totalité des États-Unis ou du Canada ou tout autre pays, alors que tous ceux qui opèrent dans le cadre social actuel ne veulent que modérer l'État et lui donner un visage humain. En vrai, je suis vraiment d'accord avec ça. Et ça, moi, c'est ce que je vous dis à chaque fois quand on parle là Quand, en fait, quand on voit par exemple que structurellement, enfin, les gens par exemple dans les banlieues ou l'après-M, tu vois, c'est qu'ils ont réussi sans l'État à s'organiser, à mettre en place des trucs. En vrai, c'est ça que Bookchin essaie de mettre en place, c'est de dire bah, les gens, on a la possibilité, le pouvoir de pouvoir évoluer et de se mettre en place des structures qui peuvent nous émanciper, qui peuvent nous améliorer notre quotidien. Donc, go le faire, quoi. N'attendez pas de l'État qu'il fasse les choses pour vous. Ouais, mais honnêtement, je respecte les bourgeois qui se tirent une balle dans le pied. Ils sont fidèles à leurs valeurs, même ces valeurs sont internées. Oh, arrête, Celtic, t'es un forceur. W comme Weimar. Chaque compromis, surtout une politique du moindre mal, conduit invariablement à des maux plus grands. C'est par une série de moindres maux offerts aux Allemands pendant la République de Weimar que Hitler a accédé au pouvoir. Oui, c'est pas faux, mais forceur, mais c'est pas faux. Hindenburg, le dernier de ses moindres maux, qui fut élu président en 1932, a nommé Hitler chancelier en 1933, donnant le fascisme à l'Allemagne, pendant que les sociodémocrates continuent à voter pour le moindre mal après l'autre jusqu'à ce qu'il obtienne le pire de tous les maux. En fait, moi, ce qui me fait chier, c'est que là, il a raison. Dans les dents et sosdem. Bah ouais, mais désolé, en fait, là, il a raison. Et c'est pour ça que, mine de rien, le moindre mal, et Krohn, c'est ce qu'elle dit, et moi je suis un peu d'accord avec elle, 2027, c'est fort possible que ça soit Le Pen. Et c'est pour ça qu'il va falloir être solide, quoi. X comme 20e siècle. Pourtant, en 63, quand j'écrivais Ecology on the Revolutionary Source, je me rappelle avoir signalé l'effet de serre et ses conséquences dans quelques siècles sur la calotte glaciaire. Les perturbations dans les cycles de l'eau, de l'azote, du carbone et de l'oxygène, que je réunissais sous la formule de cycle biogéochimique. Avec, pour finir, le déséquilibre biologique et climatique de la planète. La pollution dangereuse de l'environnement, depuis le sol jusqu'aux aliments que nous mangeons. Enfin, l'appauvrissement de la biosphère qui pourrait aboutir, contrairement aux lois de l'évolution, à la naissance d'un monde de moindre complexité, inadapté aux mammifères, aux vertébrés, bref, à toute forme de vie que nous connaissons. Comment il peut être aussi en avance sur son temps? C'est une dinguerie! Je ne saurais jamais penser, il y a seulement 20 ans, que lorsque je parlais de siècle, il s'agissait simplement de la fin du XXe siècle et du tout début de l'an 2000. Que demain, c'était aujourd'hui et que la pollution, qualifiée de dangereuse, tournait déjà la catastrophe. Et là, je pense qu'il parle, à mon avis, ça a été publié après le DTT et après le texte de Rachel Carson sur Printemps silencieux, à mon avis. Donc c'est Anarchism 1984 and Beyond, publié dans Un anarchisme contemporain. Le Pen se représentera pas, ça sera Jordan Bardella à sa place. Je suis pas sûr, mais à voir. J'ai un doute, mais on verra bien. Y comme yeux. Il nous faut voir en face cette rude évidence qu'il est nécessaire de détruire ce système et de le remplacer par une société qui rétablisse l'équilibre entre le monde humain et le monde naturel. Une société écologique qui devra commencer par ôter le bandeau des yeux de la justice et substituer à l'inégalité entre égaux, l'égalité entre inégaux. Cette société écologique, je l'ai appelée ailleurs arnaco-communisme. Mais dans mon prochain ouvrage, je la désigne comme écotopie. Chacun l'appellera comme il voudra. C'est-tu écotopie? Et du reste, demain, on va faire un react sur l'utopie. Un petit peu encore. Z comme Zola. Ah, let's go! La montée du capitalisme anglais au XVIIIe siècle et sa généralisation au XIXe siècle transformèrent radicalement toutes ces perspectives. Pour la première fois, la concurrence était vue comme quelque chose de sain, le commerce comme libre, l'accumulation comme une preuve économique, et l'égoïsme était présenté comme la preuve que, sous l'intérêt personnel, une main cachée travaillait pour l'intérêt général. Ces notions de saine rivalité et de liberté, d'économie et d'intérêt général, servait à justifier une expansion illimitée et un pillage délibéré, non seulement de la nature, mais des hommes. Les classes prolétaires en Angleterre souffrirent tout autant de la révolution industrielle que les immenses troupeaux de bisons exterminés dans les plaines américaines. Les valeurs humaines et les communautés ne furent pas moins perverties que les écosystèmes animaux et végétaux pillés dans les forêts primitives d'Afrique et d'Amérique du Sud. Parler seulement des prédations commises par l'humanité sur la nature, c'est minimiser les méfaits commis par l'homme envers l'homme, décrits dans les romans de Dickens et de Zola. Le capitalisme a divisé l'espèce humaine aussi brutalement et profondément qu'il a séparé la société et la nature. Et oui, il a divisé notamment l'homme blanc et l'homme non blanc. Let's go! une société à refaire en 92. Eh ben, incroyable. Merci à cet article de Ballast. Vraiment.